content de vous voir. J'ai été particulièrement béni par ce que Eric nous a partagé. Non seulement le contenu, mais il y avait une onction très particulière, et c'est elle qui fait la différence quand on prêche. Et donc je bénis le Seigneur pour cela. Et pendant que je l'écoutais, sans porter un jugement de valeur vraiment, hein, c'était simplement le thème étant la reconnaissance, je ne critique pas ce que d'autres font dans leur journée aujourd'hui, mais je me disais, combien de personnes aujourd'hui pensent PSG ? Et je voyais le privilège, et c'était par grâce, je veux dire, c'est pas que je sois meilleur que d'autres, mais je pensais JC, Jésus-Christ. C'est quand même une grâce que nous avons, parce qu'on passerait à côté de quelque chose de grand si on ne pensait pas à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on s'ennuierait, aujourd'hui les gens vont vivre quelque chose, ça va remplir leur âme, mais de se dire, je vis aujourd'hui en pensant à Dieu, quelle grâce, quelle grâce. Même si des fois on a des tensions avec le Seigneur, mais voilà, il y a une relation avec lui. Il s'est fait connaître à nos cœurs, et c'est quand même extraordinaire de penser ça. Donc voilà, je pensais juste à ça, et je remercie Dieu pour ça. Vous allez voir que certaines paroles qu'il a pu dire et certains textes vont faire écho avec ce que je vais dire aujourd'hui. La parole de Dieu nous éclaire, car Dieu est notre éclaireur. La parole de Dieu nous éclaire, car Dieu est notre éclaireur. Et c'est extraordinaire de savoir qu'au-delà des prophéties de la Bible qui sont consignées, et donc il y a des choses qui sont écrites et qui se sont accomplies ensuite, ou qui vont s'accomplir, mais ça fait partie de, je dirais, l'histoire générale de l'humanité, mais aussi il y a des choses qui sont écrites et qui nous précèdent dans notre vie personnelle, c'est-à-dire que Dieu nous instruit et ça va nous aider à vivre certaines situations. Et on peut entendre une prédication, ou parfois il va y avoir comme une parole prophétique, et ça va faire écho à ce que nous vivons en ce moment, ou ce que nous allons vivre, ce que nous avons vécu. Et là, on reconnaît que Dieu est précis, que Dieu prend soin de nous, que Dieu est notre Père. Et nous avions vu en Romains 15:4 que tout ce qui a été écrit d'avance, donc les Écritures, l'ont été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc vous voyez le processus là, il y a des choses qui ont été écrites d'avance pour nous. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit la patience et la consolation. Sous-entendu, on va vivre des choses un peu difficiles. Si j'ai besoin de patience, c'est que je risque d'être impatient. Et si j'ai besoin de consolation de la part des Écritures, ça veut dire que j'ai besoin d'être consolé. Donc ça nous place en fait ça nous met dans une perspective où on se dit, oui, il va se passer des choses quand même dans l'existence. Mais il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça, pour le savoir. Nous possédions l'espérance, c'est-à-dire que nous pouvons espérer malgré les situations difficiles, parce que non seulement nous vivons quelque chose de difficile, mais ce qui nous permet de les traverser, de posséder l'espérance, c'est que nous avons reçu les Écritures. Et donc comme nous avons reçu les Écritures, nous avons en nous de la patience et de l'espérance. C'est extraordinaire de voir ce que Dieu fait dans notre vie. Et je vous avais dit aussi que des fois des messages qui sont durs à entendre, et le meilleur endroit pour prêcher et entendre des messages qui sont durs, c'est dans un endroit où la grâce se manifeste. On l'avait peut-être pas vu, mais nous savons en Jean chapitre 1 que lorsque Jésus, il est venu plein de grâce et de vérité, et la vérité, c'est parfois quelque chose de dur. On dit parfois en français un proverbe, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais ce n'est pas un proverbe qu'on doit associer à Dieu. Dieu, il dit la vérité. Et c'est parfois dur à entendre. Et en même temps, quand on sait de qui ça vient, on peut le recevoir plus facilement. Parce qu'on sait du coup, parce qu'il est gracieux, que c'est pour nous qu'il le fait. Je vous avais parlé de l'antinomisme, sinon, qu'il peut y avoir dans certaines églises, où qui prêchent la grâce, mais il n'y a plus la vérité. Et ça devient ce que j'appellerais souvent une église de bisounours. Et c'est ce vers quoi parfois on se dirige si on ne fait pas attention. On s'appelle l'Église de la grâce, donc voilà, il ne faut pas heurter, il ne faut rien dire, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent et on doit simplement fermer les yeux. Ça, ce n'est pas la grâce du tout. La grâce nous pousse à renoncer à l'impiété. Donc pour moi, lorsque quelqu'un s'endurcit, se révolte, se rebelle, c'est quelqu'un qui ne vit pas la grâce. Forcément, il ne la connaît pas, puisque la grâce nous pousse à renoncer à l'impiété. Donc, quelqu'un qui pêche ne connaît pas la grâce par définition. Je parle dans la façon continuelle de pécher, parce qu'évidemment, on tombe tous chaque jour. Et donc, on doit faire attention, on ne doit pas être indifférent vis-à-vis de la loi de Dieu, c'est-à-dire que la loi de Dieu est bonne, la sainteté de Dieu est bonne, et on ne doit pas être indifférent. La grâce ne doit pas nous rendre indifférents à d'autres aspects du caractère de Dieu. C'est Dieu tout entier qu'on doit prendre, ce n'est pas l'aspect qui nous plaît. Et pas un autre. Et je vous avais dit qu'en Luc 4, 22, là c'est lorsqu'il était jeune, on voyait qu'il y avait des paroles de grâce qui sortaient de lui. Et puis en même temps, on avait vu en Jean chapitre 6 que, après avoir parlé, des disciples dirent : mais cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Et nous voyons qu'il y a des gens qui se sont éloignés de Jésus à ce moment-là. Et ce qui est très intéressant, ce que je n'avais pas vu auparavant, et j'en ai assez longuement parlé la semaine dernière, c'est que ce qui était dur à entendre, c'était pas une loi supplémentaire, c'était pas des commandements nouveaux, c'était pas des choses impossibles à réaliser, et puis du coup les gens disaient « Oh là là, t'es trop dur, t'es trop exigeant ». Non, non, ce que Jésus dit dans ce passage, c'est qu'il faut manger son corps et boire son sang, c'est-à-dire s'imbiber, s'imprégner de sa personne. Et là, c'est à ce moment-là que les disciples disent « C'est trop dur ». Et entendre plein de choses difficile, mais faire un échange entre leur vie et celle de Jésus-Christ, là, ça ne va plus. Lorsque, à un moment donné, au-delà des règles, c'est un échange de vie qui doit s'opérer, c'est-à-dire mourir à soi et prendre la vie de Jésus-Christ, là, c'est tout autre chose. Parce que l'ego est tellement fort qu'on ne veut pas perdre ce que nous sommes, alors que nous nous faisons des fois souffrir nous-mêmes. C'est ça le paradoxe. On va garder notre propre point de vue, on va garder notre propre façon de penser. On voit dans les résultats de notre existence que les fruits ne sont pas bons, et pourtant on va vouloir garder notre vie. C'est le péché qui veut ça, c'est le principe du péché qui est à la fois a tendance à vouloir nous pousser à nous protéger nous-mêmes, et en même temps il est destructeur, il nous détruit nous-mêmes. Vous voyez ce paradoxe? Et donc c'est un échange de vie que nous devons accepter. Et lorsqu'ils disent « cette parole est dure à entendre », on avait vu que c'était le mot « sclérose » en grec, ça part de quelque chose de rude, qui est offensif, c'est quelque chose qui vous agresse et qui est intolérable. Et c'est ce qui se passe, la chair est opposée aux choses de l'esprit, c'est intolérable pour la chair. Et c'est pour ça qu'ils s'en vont, d'accord ? Parce que là, c'est comme si Jésus s'imposait trop dans leur vie. C'est pas simplement « je vous donne des ordres, mais j'arrive, je m'installe chez vous, je m'installe dans votre âme. Il faut que vous mangiez mon corps et que vous buviez mon sang. » Et le processus de Dieu dans notre vie, le processus de sanctification, c'est de nous amener de plus en plus à accepter cet échange. La vie spirituelle, c'est ça en fait. C'est pas essayer de se changer ou de performer ou d'accepter les défis que Dieu nous donne, même si c'est bien de les accepter, mais ça ne suffit pas. Le plus grand défi, c'est de dire « je vais vivre ta vie à la place de la mienne ». D'ailleurs, alors on peut comprendre, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Je ne vais pas citer quelqu'un dans la salle, mais voilà, imaginez quelqu'un et imaginez cette option, j'abandonne ma vie et puis je vais vivre la vie de cette personne-là. Quand même pas exagéré, d'accord ? Elle a peut-être un travail plus intéressant que moi, je l'envie au niveau de ses dons, elle a plus d'argent, cette personne, etc., etc. Mais de là à ce qu'elle me remplace, ça va peut-être un peu loin. Je ne sais pas si... C'est-à-dire qu'on est ce qu'on est quand même. Et Jésus dit, ben justement, tu es une nouvelle créature. Et donc maintenant, moi, je veux te remplir. Et donc, on a du mal à accepter ça. Ça va trop loin. Et c'est ce qui se passe avec les disciples. C'est trop dur à entendre. On s'en va. Le tort que n'ont pas eu les autres disciples et principalement les apôtres, lorsque Jésus après s'est tourné vers les autres en disant « Et vous, est-ce que vous allez m'abandonner aussi ?» et que Pierre répond « Mais tu as les paroles de la vie éternelle ?» Au-delà de ça, c'est que Pierre avait compris que la vie éternelle, c'était justement tout le package, c'était tous les aspects de la vie de Jésus-Christ. Il avait bien réalisé que Jésus était grâce aussi, que Jésus était vérité, c'est vrai, mais il était grâce, il était patient, il était plein d'espérance. Je pensais aussi, pendant que notre frère Eric partageait tout à l'heure, pensant de la reconnaissance. Et souvent, parce qu'on n'est jamais content et exigeant, et ça arrive d'ailleurs souvent quand on évangélise, les gens nous disent, mais si c'est Dieu qui a permis tout ça, pourquoi le péché, pourquoi il a créé Lucifer, etc., etc. Et oui, c'est vrai, on peut se poser la question. On peut se dire, mais il y aurait pu peut-être avoir un monde sans péché. Possible. D'accord ? C'est vrai. Alors, moi je sais que Dieu a fait tout parfaitement, je crois en lui, mais si on discute et on réfléchit un petit peu, c'est vrai que la question peut se poser. Mais on peut aussi imaginer une chose, et je me mettais à la place des enfants, qui parfois sont cruels, avec les fourmis par exemple. D'accord ? Elles sont là, et les enfants ils prennent les fourmis, les regardent avancer, puis on en écrase une deuxième. Et imaginons un Dieu qui, pour s'amuser, crée des êtres, pour s'amuser de la sorte, parce que ça ferait partie de sa personne. Dieu serait cruel, par essence. Donc du coup, il s'amuserait à créer des êtres pour manifester et assouvir cette cruauté. Mais nous avons un Dieu qui n'est pas cruel. Oh, soyons reconnaissants pour la personne de Dieu, pour ce qu'il est. On a un Dieu, c'est quand même extraordinaire. Alors, j'allais dire presque, c'est pas de sa faute à Dieu, il est comme il est. Mais on peut être reconnaissant. C'est extraordinaire. Dieu est, en même temps, lui, au sein de la Trinité, il aurait pu rester dans l'état où il était dans l'éternité. Il y avait trois personnes qui s'aimaient, Père, Fils, Saint-Esprit. Et non, ils ont voulu faire partager cette gloire, les trois personnes de la Trinité. Vous voyez, il est bien de penser un petit peu comme ça. Et donc, nous avons besoin, à un moment donné, de nous saisir par la foi de la personne même de Dieu et de dire « Ok Seigneur, aide-moi. Aide-moi à abandonner ma vie pour que je puisse prendre la tienne. » Et là, on l'a vu, la parole de Dieu va nous aider en cela. Donc la semaine dernière, on avait vu ce principe que les Écritures sont là pour notre instruction et notamment elles nous instruisent concernant le passé. Et on avait parlé d'Hébreux 11, par exemple, très brièvement, et le cas de Sarah, où il était dit, par exemple, que au verset 11 de Hébreux 11, « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Si on lit le livre de la Genèse, on s'aperçoit que Sarah n'a pas été que comme ça. D'accord ? On a l'impression un peu qu'il y a un mensonge par omission là, en disant bon, elle a cru, mais elle a quand même rigolé aussi. Hein ? C'était quand même un signe d'incrédulité. Mais dans l'épître aux Hébreux, justement, c'est une description des héros de la foi au travers de l'œuvre accomplie. C'est-à-dire que Jésus est venu, parce que rappelez-vous, l'épître aux Hébreux, je suis en plein dedans en ce moment, donc je peux vous en parler pendant des heures, c'est que ça nous parle du sacerdoce de Jésus-Christ. Et le sacerdoce, entre autres, le sacerdoce de Jésus-Christ, ça nous parle du sang de Jésus-Christ qui est supérieur au sang des animaux. Et donc le sang de Jésus-Christ a lavé le rire d'incrédulité de Sarah. Ce qui fait qu'Hébreux 11 n'en parle pas. Et la question qu'on peut se poser, alors que nous marchons par la foi, et c'est être un héros aujourd'hui, c'est pas être forcément Samson, ce n'est pas forcément être Sarah ou Abraham, mais il faut être un héros pour, par la foi, accepter ce que Dieu dit concernant son œuvre et de se dire « Je regarde mon passé au travers de l'œuvre accomplie. Je regarde mon passé au travers du sang qui a lavé tous mes péchés et qui les a enlevés. » Est-ce que nous vivons ainsi ? Est-ce que ce qui a été écrit pour notre instruction nous donne de l'espérance et de la patience ? À la limite, on a peut-être moins besoin, mais en tout cas, nous donne de quoi regarder le passé sans avoir de regrets, sans avoir de culpabilité. Reconnaître, en reconnaissant les erreurs et les péchés qu'on a pu commettre, c'est vrai, mais maintenant, en les utilisant comme outil pour moins faire de bêtises à l'avenir. Mais néanmoins, se voir selon Hébreux 11. Un peu aussi comme le livre des Chroniques. Hein. Si vous prenez le livre des Chroniques, ça vous raconte en gros ce qui s'est passé avec un Samuel et un roi. La seule chose, c'est que le livre des Chroniques, c'est le commentaire de Dieu sur l'histoire d'Israël. Ça fait que dans le livre des Chroniques, il est beaucoup moins parlé des péchés d'Israël et des individus, des rois, etc. C'est la vision de l'œuvre accomplie au travers de ces livres de Chroniques. Est-ce que nous avons un livre de Chroniques dans notre vie? Ou est-ce que nous avons simplement un livre des rois ou un livre de Samuel sur notre existence avec tous les détails de nos fautes? Vous voyez? Les Écritures nous aident à avoir un regard objectif. Quand je dis objectif, je ne dis pas historique, selon mon point de vue, parce que moi j'ai pu commettre des erreurs, ou vous aussi, quand je dis le regard objectif, selon le point de vue historique de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ a payé pour les péchés, ça fait partie de son histoire, il l'a vécu dans sa chair, ça. Donc historiquement, c'est vrai, il a lavé nos péchés. Et ça, c'est le point de vue de Dieu, en disant, j'ai mon sang, là, j'ai payé, je sais ce que ça coûte. Et je sais que c'est efficace parce que maintenant je suis auprès de mon Père et ce sang parle en votre faveur. Donc je sais ce que c'est. Je sais ce que ça m'a coûté sur terre et je connais la valeur de ce sang au ciel. Et donc, nous avons besoin dans nos pensées, et c'est ça être un héros de la foi aussi, d'échanger nos pensées contre celles de Jésus et de prendre son point de vue sur ce qu'il a fait à la croix. Et de dire, ok Seigneur, je crois. Je suis parfait en toi. Je suis accepté dans le bien-aimé. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es toujours là avec moi. Ton sang est efficace et il parle. Tu intercèdes pour moi. Tu as des pensées de paix et non de malheur. Ça, c'est la réalité. C'est être un héros de la foi que de penser comme ça. C'est pas uniquement... Vous savez, vous pouvez avoir des gens, et c'est bien, qui évangélisent dans la rue, qui amènent des âmes à Christ, qui vivent eux-mêmes dans la culpabilité. Des fois, il y a des gens qui arrivent à vendre un produit auquel ils ne croient pas pour eux-mêmes. Bien sûr, les évangélistes croient que le Seigneur est mort pour nos péchés et pour leurs péchés, mais je veux dire, après, la vie de l'œuvre accomplie ne la vivent pas forcément. Et ils peuvent parler de la paix de Dieu sans l'avoir eux-mêmes. Il faut être un héros de la foi pour croire par la foi que ce que Christ a fait il y a 2000 ans pendant quelques heures a pris soin de ma vie passée. Et donc, c'est important parce que un des problèmes que nous avons, entre autres, c'est le stress, c'est l'inquiétude, notamment l'inquiétude par rapport au poids du passé que l'on traîne parfois. Et donc, c'est rempli de regrets. Et pour vivre dans le repos, nous avons besoin des Écritures, de s'en saisir et d'être instruits par elles. Et de la même manière... nous avons besoin de vivre selon l'œuvre accomplie les moments présents aussi. Il y a le passé, le regard qu'on a sur le passé, mais il y a aussi le présent. On a là un exemple très important justement avec la vie de Joseph. On voit que Joseph, il était éclairé par Dieu en permanence. Alors il était éclairé, grâce à ses rêves, hein, il connaissait d'avance les choses qui allaient se passer. Dieu utilisait ses rêves pour le conduire et conduire aussi ceux qui l'entouraient. Mais il n'était pas éclairé que dans ce domaine-là. C'est que Joseph, sa vie, il était la lumière du monde, lui aussi. C'est-à-dire qu'il éclairait par sa vie, par sa façon de penser, par sa façon d'être. Il éclairait les situations ténébreuses qu'il pouvait traverser ou que d'autres pouvaient traverser. Et ce qui fait que nous voyons avec quelqu'un comme Joseph, quelqu'un qui vit dans l'œuvre accomplie, le présent. Et je vais vous lire quelques versets. En Genèse 45:5, lorsqu'il est devant ses frères qui, eux, vivent dans la culpabilité, rappelez-vous, hein, quand ils pensent avoir été piégés à un moment donné en Égypte, alors qu'ils n'ont pas encore reconnu leur frère Joseph, ils disent très bien, voilà, c'est Dieu là qui est en train de nous châtier parce qu'on a fait du mal à Joseph. Donc on voit que pendant des années, ils ont dû y penser, puisque dès qu'un événement malheureux arrive, ils font mention de ce péché. Donc ils vivaient vraiment dans la culpabilité. Et qu'est-ce que dit Joseph alors que justement ils vont le reconnaître, en tout cas Joseph va se faire connaître à eux. « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. » Vous imaginez ? C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui vous a donné une claque, « Ne t'afflige pas de m'avoir donné une claque. » Ça a servi à quelque chose. « Ne te culpabilise pas parce que tu m'as volé ma voiture. » Ne t'en veux pas parce que tu as calomnié contre moi derrière mon dos et que tu as menti. Non, tout va bien. Pourquoi ? Parce qu'ils disent c'est pour sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est-à-dire que Joseph avait la vision de Dieu sur ce qu'il a vécu. C'est extraordinaire. Parce que vous allez me dire, mais comment Joseph a pu dire ça ? C'est un peu comme si moi, le malheur qui m'arrive à cause de vous, va engendrer quelque chose qui va vous faire du bien et je vais vous encourager en disant ne vous inquiétez pas. T'as même, Joseph ne dit pas qu'ils avaient bien fait, mais en gros, voilà, Dieu s'est servi de ça. Pourquoi il a pu le dire ? Ben, n'oubliez pas que Joseph, lui aussi, avait reçu de l'instruction. Déjà, de la part, on peut imaginer, de son père qui a dû répéter les promesses faites à Abraham et à Isaac. Donc, Joseph savait que lui et ses frères, de toute façon, allaient être bénis, qu'il y avait une protection. Donc, que ça se passe par Joseph ou par quelqu'un d'autre, il savait que Dieu allait être fidèle. Donc, deuxièmement, Joseph savait qu'une famine sévissait en Israël. Et donc, il a dû s'inquiéter en disant, mais tiens, qu'est-ce qu'il en est pour ma famille aujourd'hui, comment elle va s'en sortir ? Là, il les voit arriver en Égypte. Pour lui, c'est la réponse de Dieu, c'est-à-dire que c'est la fidélité de Dieu vis-à-vis des promesses qu'il a faites à Abraham en disant « ta descendance, je vais m'en occuper, vous serez une grande nation ». Donc il possédait une espérance, Joseph, pour lui mais aussi pour toute sa famille, et ça a été renforcé par les rêves qu'il a faits, puisqu'il savait que lui-même allait être, je dirais, l'outil, l'agent de bénédiction. Et donc, tout ce qu'il a pu traverser en Égypte, et maintenant il se retrouve devant ses frères, il sait que c'est l'aboutissement de ce rêve et de la promesse faite à Abraham. Et donc il intègre toutes les difficultés de l'existence et l'injustice qu'il a pu subir, il l'intègre dans le plan de Dieu. C'est-à-dire qu'il a une vision de l'œuvre accomplie. Lorsqu'il a reçu un rêve en disant « un jour, toute ta famille en gros va être autour de toi parce que tu vas être leur sauveur », c'était déjà accompli à partir du moment où Dieu l'avait promis, ça allait se faire. Et donc son comportement a toujours été en fonction de cette révélation. Ça va se faire un jour Dieu va m'utiliser, je suis dans un cachot, mais un jour il va se passer quelque chose. Ça va même plus loin, je suis sûr que comme il marchait par la foi, il était sûr qu'il allait retrouver sa famille un jour. Forcément, puisqu'il avait reçu un rêve par rapport à ça. Et donc, il a possédé l'espérance et la patience que donnent, là, non pas les Écritures, mais la révélation de la parole vivante qu'il avait rêvé. En Genèse, chapitre 50, verset 20, il va dire un peu la même chose. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Donc, encore une fois, une vision de l'œuvre accomplie. Psaume 105, verset 17. Et c'est là où c'est intéressant. Psaume 105, verset 17. Il envoya devant eux un homme, deux points, dans un premier temps, on ne sait pas qui est cet homme, c'est Dieu qui envoie, hein. Deux points, Joseph fut vendu comme esclave. Waouh ! Sacrée vision des choses. C'est-à-dire que les frères s'acharnent sur Joseph et lui font vraiment du tort, manquent de le tuer et le vendent comme esclave, vous connaissez l'histoire. Mais là, selon le psaume 105, c'est Dieu qui envoie un homme, devant qui ? Devant le reste de la famille. C'est-à-dire que Joseph avait été éclairé par la parole de Dieu, il y avait Dieu qui le précédait dans sa vie, mais du coup Joseph devenait un éclaireur pour sa propre famille. C'est-à-dire qu'il les avait devancés, il les avait envoyés. Et c'est un peu comme ça dans plein de situations d'existence. Si par exemple vous êtes au travail, parce que vous essayez de marcher par la foi et d'essayer de plaire à Dieu et d'être intègre dans autant que faire se peut, et donc on sait dans des conditions qui sont parfois pas toujours faciles, mais en tout cas vous essayez d'être la lumière du monde, vous éclairez de votre présence et grâce à la personne de Christ en vous le lieu où vous êtes, et ce qui fait que vous êtes comme un éclaireur pour les autres. C'est une autre manière de dire un témoin. D'accord ? Vous éclairez, vous illuminez, mais aussi vous êtes un éclaireur, c'est-à-dire que vous montrez aux gens quelle est la direction du royaume de Dieu. Eux s'en rendent pas compte, parce que ils croient peut-être pas en Dieu, etc. Mais en réalité, les cieux, le royaume de Dieu s'approche d'eux grâce à votre personne. Tout comme, d'une certaine manière, lorsque Jésus était là, le royaume de Dieu s'approchait. Bah, par l'Église, le royaume de Dieu s'approche dans le monde, grâce à notre comportement et notre façon d'être. Et donc, nous éclairons les gens et nous les précédons pour les conduire à Christ en disant « Viens, suis-moi ». Alors au début, c'est vu comme un standard moral, une façon de vivre. « Bah oui, toi, t'es chrétien, donc tu te comportes comme ça ». Les gens ne voient pas forcément Dieu dans un premier temps. Mais c'est pas grave. Dans un premier temps, ils vont être conduits. Tout comme les frères, là, bon, il y a la famine, ils ont des situations difficiles, et ils rencontrent Joseph, qui est devenu premier ministre en Égypte. Ils ne reconnaissent pas que c'est Joseph encore, ils ne savent pas qui c'est. Mais ils ont été conduits, et ils lui demandent de l'aide, il se passe quelque chose, ils reçoivent de la nourriture, et petit à petit, ça va les amener à se repentir, et à retrouver une communion avec celui qu'ils ont trahi. Mais pour revenir à Joseph, ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'il vivait dans son existence présente n'était pas déconnecté de ce qu'il avait reçu avant. Et le grand défi, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est des fois on se déconnecte de ce qu'on entend le dimanche, par exemple, de ce qu'on lit le matin dans notre Bible. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de synchronisation entre nous et la pensée de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est pas que nous nous forcions à obéir ou à faire des choses, c'est qu'on puisse abandonner notre vie, faire un échange, lui demander de l'aide par la puissance du Saint-Esprit, et à ce moment-là, on est vraiment éclairé, et nous sommes un éclaireur pour les autres. On va devancer les autres. Et ça a été la même chose pour Jésus-Christ d'ailleurs. Dans Actes 2, 23, il est écrit « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu », donc ça a été prédéterminé, c'est tout comme Dieu avait envoyé Joseph devant ses frères en Égypte, ben Jésus, il a été envoyé sur la terre, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et on voit tout au long de son ministère que Jésus savait pourquoi il était venu. Il savait qu'il devait mourir à la croix, il savait qu'il devait abandonner sa vie. Mais il savait aussi que ce mal, c'était un mal, ce mal allait être transformé en bien. Alors évidemment, lui, il avait toute la révélation, il était le Dieu en personne. Nous, aujourd'hui, dans notre présent, il faut le reconnaître, des fois on ne sait pas pourquoi Dieu permet certaines choses. On n'a peut-être pas reçu les rêves de Joseph, d'accord ? On n'a peut-être pas autant de précision. Mais avec le temps, si nous avons appris à connaître Dieu, on sait que de toute façon, il a raison. Même si on ne comprend pas. Est-ce que nous, on a une vision de l'œuvre accomplie, c'est-à-dire de la rédemption que nous avons en Jésus-Christ, là, maintenant, dans la situation dans laquelle nous sommes dans les émotions que nous avons, avec les problèmes que nous avons, est-ce que nous croyons que Dieu est avec nous? Est-ce que nous le croyons? Alors, ça ne veut pas dire que tout est rose, que tout est parfait, mais est-ce que nous croyons que Dieu est là? Et c'est intéressant parce que là où des fois on peut recevoir la parole de Dieu, ça me vient comme ça maintenant là, mais on peut recevoir la parole de Dieu sans l'intégrer complètement. Nous avons le cas avec Jacob. Vous rappelez quand Jacob va fuir suite à ce qu'il a fait à son frère Ésaü, il s'endort et puis il a une vision avec l'échelle et l'ange de l'Éternel et les anges qui montent et qui descendent. Et quand il se réveille le matin, il dit « Le Seigneur était là et je ne le savais pas ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il était là, en réalité. Et non seulement il était là, mais il a bien expérimenté le rêve et il s'en est souvenu. Oui, mais pourquoi il dit « je ne le savais pas » Parce qu'il n'était pas réveillé. Il n'y avait pas sa propre volonté. Il avait reçu ça, mais lui, il n'y avait pas sa participation. Il n'y avait pas encore d'échange. Vous comprenez? C'est qu'il était déconnecté de la révélation. En revanche, quand il va se battre avec l'ange de l'Éternel sans vouloir le laisser partir, là, il a voulu rester connecté en disant « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. » Vous voyez la progression spirituelle, la maturité spirituelle, l'échange. Et c'est à ce moment-là que Dieu le Père change son nom. Parce qu'en réalité, c'est là qu'il y a eu la victoire, en fait. Tu t'es battu avec Dieu, mais en réalité, il a accepté de mourir à lui-même. Et ce qui a permis de faire ça dans la vie de Joseph, c'est d'abord le travail de Dieu, année après année, mais aussi la révélation de Dieu dans la vie de Jacob. C'est-à-dire que Jacob, c'est le bon côté de sa personne, il croyait Dieu, il croyait dans la révélation, il croyait dans le droit de naissance, dans la primauté de la bénédiction. Donc il avait la foi, la seule chose c'est que c'était déconnecté de son existence quotidienne. Dans son quotidien, il opérait selon le tempérament naturel et selon la chair. Quitte à essayer de faire des choses pour Dieu, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Mais petit à petit, il y a la patience qui s'est installée dans son âme et il y a eu l'espérance. Et vous savez, ça a continué après, parce que la Bible en parle très peu, on se concentre après sur la vie de Joseph. Mais pensez à toutes ces années où Jacob a cru avoir perdu Joseph. Où on ne sait rien de Joseph, on ne sait pas ce qui s'est passé en terre promise. Il n'est plus l'agent de Dieu à ce moment-là, c'est sur Joseph maintenant que Dieu a mis sa main. Et donc c'est des années peut-être avec du regret, avec des doutes, et voilà, Joseph n'est plus là. Et puis la résurrection, Joseph va réapparaître dans son âme un jour. Et entre-temps, la patience et l'espérance qu'auront été ancrées. Et si on lit après en Genèse 50 ou 49, je ne sais plus, la bénédiction de Jacob qu'il fait sur ses enfants, où il est là assis sur... Alors selon les traductions, le mot hébreu, ça peut vouloir dire pied de lit. Dans l'Épître aux Hébreux, il reprend le passage en disant qu'il était appuyé sur un bâton. Et je pense toujours à cette image de Jacob qui est vieux, qui est sur son bâton, et qui bénit les autres. Il ne peut plus rien faire, il va bientôt partir. Mais il y a la vie de Christ en lui, là. Et il la redonne, cette bénédiction sur les autres. Une vision de l'œuvre accomplie. Sa vie, elle a été ce qu'elle a été. Mais la promesse faite à mon grand-père Abraham, la promesse faite à Isaac, mon père, c'est encore valable. Et cette promesse, moi, je la répands sur la fratrie, sur toutes les tribus d'Israël. La fidélité de Dieu. Ce que Dieu fait, il l'accomplit. En Jean chapitre 19, verset 11, quand il est devant Pilate, Jésus lui dit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Vous voyez, Jésus savait que c'était son Père qui était derrière, qui avait donné cette autorité. Une vision de l'œuvre accomplie. Une vision céleste et spirituelle des choses. Et ça m'amène à l'autre partie, et je vais juste commencer ce soir et je terminerai une autre fois. On a vu qu'on avait besoin d'avoir une vision de l'œuvre accomplie concernant notre passé. Toutes choses sont nouvelles, ce qui est important c'est d'être une nouvelle créature. On a besoin d'avoir une vision de l'œuvre accomplie sur notre présent, de croire que Dieu est en train d'être à l'œuvre. Des fois nos œuvres ne le sont pas bonnes, mais Dieu lui fait une œuvre bonne. En ce moment, il fait une œuvre bonne. Il est en train d'agir dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, malgré les situations que nous traversons en ce moment, mais aussi dans notre existence personnelle. Dieu fait une œuvre bonne. Il ne rate rien. Il n'est pas là en train de s'amuser avec des fourmis. Nous avons un Dieu qui est concerné par l'âme de chacun d'entre nous et il a payé le prix pour manifester cet amour. Il a payé le prix. Mais maintenant, est-ce que nous avons une vision de l'œuvre accomplie concernant l'avenir ? Je vous parlais des prophéties, je vous parlais du caractère de Dieu, tout ce que les Écritures nous enseignent. Je comprends que d'un certain côté, on doit faire attention, il faut bien gérer correctement notre vie. Dieu nous donne des principes d'ailleurs pour semer dans notre existence des bonnes choses pour ne pas en récolter des mauvaises. Donc la Bible nous demande de gérer en partie notre vie avec l'aide de Dieu, mais je veux dire, il y a des décisions à prendre, etc. Mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, bien entendu. Même les décisions que nous prenons et les actions que nous entreprenons, on n'est pas sûr qu'elles vont réussir. Et donc il y a une part de foi, non pas en nous-mêmes, mais en Dieu, en disant « Seigneur, je fais le mieux que je peux, mais je ne sais pas de quoi ça, demain sera fait. » Je sais plus, on discutait avec quelqu'un dans l'église là, dernièrement, et la personne disait « Quand on a passé le réveillon du jour de l'an ensemble, on était bien serrés là, hein, dans notre local, on n'avait pas idée que 2 mois ou 3 mois après, on serait dans cette situation-là. En fait, on ne sait rien. » Mais en même temps, la situation que nous traversons en ce moment peut alimenter une forme de crainte. Et ça peut être légitime d'une certaine façon. Mais ce que j'aimerais vous dire ce soir, je continuerai une autre fois, c'est que les Écritures nous donnent des instructions pour que nous ayons de l'espérance, pour que nous puissions patienter et pour que nous puissions être consolés. C'est-à-dire que les Écritures qui sont utiles pour gérer notre passé, pour avoir un regard correct sur le passé, qui nous aident à marcher par la foi dans le présent, les Écritures sont aussi un outil pour regarder l'avenir selon l'œuvre accomplie. Je ne sais pas comment certaines choses vont aboutir, ou en tout cas, je sais qu'il y a des choses qui vont aboutir, qui vont se terminer dans ma vie, mais je ne sais pas comment ça va se terminer. Je sais qu'un jour, ma vie sera d'être avec le Seigneur. Je ne sais pas comment cette transition va se faire, je ne sais pas comment je vais mourir. Je ne sais pas si je vais souffrir ou pas, si ça va être immédiat ou si je vais me voir partir. Peut-être que je ne me verrai pas partir parce que j'aurai perdu la boule, je ne sais pas, d'accord ? Je ne sais pas. Donc ce chemin-là, je ne le connais pas, mais par contre, je connais la fin de l'histoire. D'accord ? C'est un peu comme un film, hein. Des fois vous ratez des séquences et puis vous connaissez la fin. Ben là, il y a des séquences que je ne peux pas connaître encore. Mais je suis tranquille parce que je connais la fin. Et les Écritures sont là pour ça. Et je suis étonné combien, dans le christianisme aujourd'hui, les gens avec cette situation-là ne vivent pas dans l'œuvre accomplie, parce qu'ils ne sont pas nourris par les Écritures. Vous savez, en Matthieu 24, 6, Jésus... Alors, on va faire un peu d'eschatologie parce qu'il y a un côté pratique que nous pouvons recevoir. En même temps, le passage dont Jésus parle là s'adresse à des Juifs et ça parle de son retour sur la terre, d'accord ? L'instauration du millénium. Donc si vous lisez Matthieu 24 et 25, ça nous parle de la période de la tribulation, d'accord ? Donc on ne doit pas se l'approprier complètement, ça ne concerne pas l'Église littéralement. Néanmoins, la manière d'opérer de Dieu est toujours la même, la manière de nous prévenir, la manière de nous donner de l'assurance et des promesses. Regardez ce qu'il dit, Matthieu 24, verset 6. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Qu'est-ce qu'il dit ? « Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors c'est intéressant parce que là il parle de ce qui va arriver avant Armageddon, avant son retour. La bataille finale contre l'Antéchrist. Mais pour que la tribulation arrive, il est bien évident qu'il y a des choses dont nous allons être spectateurs aussi. D'accord ? Bruit de guerre, il se passe des choses. Moi, je crois fermement que la restauration, pas la restauration, mais la forme de résurrection de l'État d'Israël en 1948 constitue un prémisse pour l'avènement du royaume de Dieu, etc. Mais ça peut prendre du temps. Néanmoins, on va dans une certaine direction. Je dis ça pourquoi ? Parce que, bien sûr, il nous faut prier, bien sûr, il nous faut peut-être empêcher certaines choses d'arriver. Enfin, on peut être un citoyen, on peut être un être humain qui voulons avoir un impact dans notre société, on peut s'investir dans une association, etc. Néanmoins, ces choses-là vont arriver. Elles vont arriver. Donc, il faut arrêter de paniquer. Les gens parlent de complots diaboliques partout. Bien sûr que le diable est derrière plein de choses dans ce monde. Est-ce que les chrétiens doivent en être étonnés ? Est-ce que c'est le combat du chrétien de lutter de cette manière contre le diable ? Et de faire une forme de prosélytisme en enfourchant différentes thèses complotistes, en pensant être le redresseur de tort et le justicier du christianisme ? Des gens, des fois, accusent d'autres de ne pas être spirituels. Mais ces gens-là sont loin d'être tranquilles. Je ne les sens pas dans le repos. Je ne les vois pas avec vivre et partager une espérance. Je ne vois pas de patience. Je ne vois pas de tranquillité. Je ne vois pas le fruit de l'esprit. Et d'un côté, ils vont dire qu'ils croient dans les Écritures et en même temps s'inquiéter parce que ces choses-là arrivent et prévenir tout le monde. Prévenir le monde, oui, qui a l'enfer, ça c'est sûr. Ça c'est le plus grand des complots qui puisse exister, c'est que le diable aveugle l'humanité par rapport à ces vérités-là. Ça c'est un complot. Ça s'appelle un esprit de séduction. Le diable vole, ment, fait des ravages, triche, blasphème, ça c'est un complot. Et les chrétiens doivent prendre en main ce combat-là. Mais s'agissant de perdre son temps dans des broutilles, alors que le Seigneur nous a prévenus, ne vous troublez pas, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mes amis, si vous discernez dans votre grande sagesse certaines choses, mettez-vous à genoux plutôt que de tchatcher. Voyez, c'est-à-dire que quel est le combat auquel nous sommes appelés en tant que chrétiens? Nous avons besoin d'être éclairés par Dieu et d'être des éclaireurs pour les autres. Mais des bons éclaireurs, les amener vers la lumière, c'est-à-dire la personne de Christ. Et donc Dieu peut utiliser toutes les circonstances possibles et inimaginables pour que l'Évangile soit prêché, pour que les saints prient pour les autorités, plutôt que de parler systématiquement contre elles, en voyant des complots partout. Vous savez, Néron a comploté aussi, ce dont les historiens, cet empereur a, comment dire, organisé l'incendie de Rome pour ensuite accuser les chrétiens d'avoir commis cet acte, ce qui lui a permis de persécuter les chrétiens en grand nombre. Ces chrétiens étaient attachés à des bouts de bois et on leur mettait de la cire de haut en bas et on allumait sur leur tête la cire et on en faisait des torches. Et les gens brûlaient petit à petit et rejoignaient le Seigneur. Ça, c'est de la persécution. Ça, c'est un complot. Mais tous les dirigeants ne sont pas Néron et tous les chrétiens ne sont pas des martyrs. Il faut savoir quels sont les mots qu'on utilise. Il faut discerner les époques dans lesquelles nous sommes. J'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Nous avons pour l'instant encore la liberté d'annoncer l'Évangile. Je ne suis pas dupe, ça ne durera pas forcément longtemps. Mais je préfère utiliser ma bouche alors que je suis libre pour annoncer l'Évangile plutôt que pour annoncer des complots. Je préfère annoncer Christ que de faire la lumière, la publicité sur les éventuelles stratégies du diable. Nous sommes dans la période dans laquelle nous sommes. Et donc aujourd'hui, ça reste toujours le jour du salut. Aujourd'hui, nous sommes toujours la lumière du monde. Aujourd'hui, nous avons toujours la parole de Dieu pour nous guider. Et donc, il ne faut pas se tromper de combat, premièrement, et aussi, il ne faut pas vivre dans la crainte. En Apocalypse 13, versets 15 à 17, il est écrit ceci. Apocalypse 13, versets 15 à 17. Donc ça, c'est le prophète, le faux prophète. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Beaucoup y voient, et je suis assez d'accord, l'image de la bête, ça peut être la technologie qui permet aujourd'hui d'imposer des images partout. Afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit de tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite et sur leur front. Une marque sur la main et une marque sur le front. On parle beaucoup de ça aujourd'hui. Des puces qu'on peut mettre sous la peau, etc. Et j'en parlerai après. Et quelle sera la conséquence ? Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse. C'est intéressant, c'est dans le texte, on prévient. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors voilà, on a ce texte, et alors depuis ma conversion, j'entends parler de ça, 666. À chaque fois qu'il y a un 666 quelque part, ça fait toute une polémique. Il y a même des mensonges ou des erreurs, j'en sais rien, qui des fois détruisent même la vérité de l'évangile, c'est-à-dire que ça décrédibilise le message chrétien. J'ai entendu parler, par exemple, pendant quelques années, que vous savez, la pyramide du Louvre, oh, l'insigne maçonnique, oh, c'est le diable, il y aurait 666, enfin, allez compter, il n'y en a pas 666. Donc allez-y, et arrêtez d'en parler si vous en parlez. Vous voyez, ça fait partie des fake news, et il n'y avait pas Internet à l'époque, hein. Ça se faisait comme ça. Mais je veux dire, c'est pas vrai, allez compter les facettes de la pyramide du Louvre. Alors, qui y est peut-être derrière des visions ésotériques, etc. Et alors, les choses vont aller comme ça de mal en pis. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait qu'un jour, en effet, ceux qui adorent la bête, on leur donnera une marque en disant « Toi, tu es un bon citoyen, tu es une bonne personne, donc tu pourras t'insérer dans le système économique. Tu auras une marque sur le front et sur la main, et si tu n'as pas cette marque-là, attention. » Ok. Technologiquement, aujourd'hui, c'est possible, d'ailleurs, d'accord, de le faire. On est d'accord. Mais mes amis, le plus grand souci que nous devons avoir, c'est pas les puces sous la main. Moi, ils peuvent me mettre une puce sous la main. Hein. Ce qui compte, c'est « Est-ce que j'adore la bête ?» C'est ça le plus important. Le combat, il est là. C'est de dire aux gens, n'adorez pas la bête. Alors, une fois, j'avais dit dans un temps de questions-réponses, il y a longtemps, et les gens disaient, oui, c'est possible. Parce que des fois, vous savez, Dieu écrit des choses, mais la prophétie ne s'interprète pas exactement telle qu'on la comprend. D'accord ? Il y a le principe. Mais je disais à l'époque, mais vous savez, la carte bleue, la carte bancaire, on a le chiffre dans la tête et on tape le code avec la main. Si on devait utiliser ça comme illustration, peut-être c'est déjà ça le chiffre de la bête. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous n'avez pas une carte bancaire, c'est pas simple pour vivre. Et là, avec l'épidémie, on nous pousse de plus en plus à ne plus utiliser les espèces. Donc on y vient. Je me demande s'il n'y a pas un pays européen qui a donné une date d'ailleurs pour arrêter les espèces. Je ne veux pas dire de bêtises, mais un pays du Nord. Mais je ne dis rien parce que je ne suis pas sûr. Mais toujours est-il qu'il est évident que, comme tout le temps, le diable va faire que ce sera logique et sage de le faire. On ne te volera pas ton argent, tu risques pas de contagion. C'est-à-dire que à chaque fois que le diable fait quelque chose, même nous les chrétiens, on est oubliés. C'est pas qu'on est séduit, mais je veux dire, ça appartient à une logique. Or, on fait partie de cette terre, si vous voulez, de l'histoire humaine. Donc, on va peut-être commencer à subir ce que les prophéties ont annoncé. Et alors, ça veut dire que Jésus revient bientôt, mes amis. Et alors, surtout, n'adorez pas la bête, c'est ça que je vous demande. D'accord ? Mais pour le reste, parce que si on veut être tatillon, mais mes amis, utilisez plus votre carte bancaire à ce moment-là. Alors le problème, c'est que, oh, mais c'est un peu tard peut-être. C'est sûr, j'ai fait des recherches hein, pour ceux que ça intéresse. Ça existe depuis 1967, la carte bancaire. La puce, elle a été inventée par un Français, l'Antéchrist va venir de France, par Monsieur Moreno en 1974. La Mastercard 76, les terminaux électroniques pour payer 1980, parce qu'au début c'était que des distributeurs de billets. Ensuite c'était pour acheter de la marchandise. Donc vous voyez, ça a évolué petit à petit. Donc ça veut dire, mes amis, que depuis que vous utilisez une carte bancaire, si vous utilisez peu d'espèces, on sait tout de vous. Vous allez dans une librairie chrétienne acheter des livres, on sait que vous achetez des livres chrétiens. Vous partez en vacances quelque part, on sait où vous allez. On sait plein de choses. On sait qu'est-ce que vous mangez, quel magasin vous fréquentez. En plus, maintenant, sur Internet, avant, si j'allais dans un magasin, il y avait une facture globale, on ne savait pas exactement les détails. Mais là, maintenant, sur Internet, on sait exactement, tu préfères une robe verte plutôt qu'une rose. On sait tout. On sait tout. Mais le plus important pour moi, on peut me tracer. Honnêtement, je n'ai pas grand-chose à cacher. C'est plutôt là-dedans peut-être qu'il y a des choses. Mais pour le reste, ils peuvent toujours me tracer. Moi, ce qui compte, c'est que Dieu sait tout de moi. C'est ça le plus important. Dieu sait tout de moi. Et mon repos, il est là. Dieu sait tout de moi. Il sait ce que j'achète. Il connaît mes goûts. Il sait tout. Et les autres, ils peuvent le savoir aussi. Alors, en tant que citoyen, je dis pas que c'est bien. Hein. Attention au niveau de la liberté. Il peut y avoir un dictateur qui arrive du jour au lendemain. Il sait tout de vous. S'il veut arrêter les chrétiens, c'est très facile. Bien sûr, on sait ça. Mais mes amis, ça va arriver. Le système de l'antéchrist va se mettre en place de toute façon. Alors, maintenant, si en tant que chrétien, vous voulez retarder l'échéance, faites de la politique. Je veux dire, engagez-vous, assumez et battez-vous. Mais l'Église, elle, son message, c'est de dire la parole de Dieu l'avait prédit, il y a un message d'espérance, il y a un message de patience, il y a un message de repos, je sais où j'en suis, je connais ma destinée, et vous, vous avez peur, pas moi. C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire d'avoir une vision de l'œuvre accomplie. Vous avez des gens qui vous parlent de l'œuvre accomplie en permanence et qui parlent du futur avec angoisse. Vous avez ce qui se passe ? T'as vu aux infos ? Si, si. Bien sûr qu'on parle de ça. On n'est pas dupes, on s'informe. Mais néanmoins, on n'a pas de crainte à avoir. On n'a pas de crainte à avoir. Parce que la connaissance que j'ai de tout ce qui est en train de se passer est enfouie par l'arbre de la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Le problème, c'est que souvent, les gens, ils connaissent plein de choses sur ce qui se passe, et pourquoi pas, mais la vie, elle, ne prend pas le dessus. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne nous amène pas à la vie. C'est le stress, l'angoisse, des paroles peu édifiantes, et ça amène même l'incrédulité. Alors que Dieu nous a prévenus. On est un peu aujourd'hui, peut-être pas, il va peut-être encore se passer du temps, mais juste pour comparer, vous vous rappelez quand Israël donc a péché plusieurs fois, et à un moment donné, Dieu, la coupe est pleine, il va, même si c'était inimaginable pour Israël, il va permettre la déportation babylonienne. Qui va prêcher le message et va prévenir ? Jérémie. Jérémie, il va être là en disant, mais ça va loin, hein, mais arrêtez de vous battre, hein, ne vous battez pas contre Nebuchadnezzar, vous allez perdre. On va être déporté. Je peux même vous dire, 70 ans. Vous voyez, d'un côté, et d'ailleurs, pourquoi il a été en prison, ou en tout cas assigné à résidence, Jérémie ? Parce qu'il était pris, un, comme un collabo de l'ennemi, mais surtout comme un défaitiste, en disant, mais tu crois pas le Seigneur, tu crois pas que le Seigneur va pouvoir faire quelque chose ? Qu'est-ce que c'est que ce prophète-là ? Les autres prophètes nous ont toujours donné des promesses de délivrance, et toi tu nous dis, non. Quand Israël se battait pas à cause de son incrédulité, les prophètes disaient, mais battez-vous, vous êtes des poules mouillées. Et puis là, Israël a Nebuchadnezzar devant lui, et là, il n'en faut pas se battre. Ben oui, parce que c'est écrit, c'est la volonté de Dieu, c'est le châtiment de Dieu qui arrive. Vous comprenez ? C'est un peu ce même état d'esprit qu'on doit avoir. C'est-à-dire que si nous interprétons correctement les Écritures, Dieu va juger le monde. Eh, vous avez de la chance, on est dans une église. Alors j'espère que c'est biblique ce que je vous dis, mais théologiquement, on est prémillénariste et pré-tribulationniste. Tribulationniste, c'est-à-dire que nous croyons que nous n'allons pas traverser ces événements. Mais de quoi avons-nous peur ? Vous comprenez ? Je veux dire, si on était post-tribulationniste, là on dirait, ma sœur, ça arrive, hein, accrochons-nous, hein, ça va être dur. Mais nous, nous croyons en ce Dieu de grâce qui dit que, selon un Thessalonicien, que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, que nous allons être enlevés. Donc on voit arriver ces choses, c'est malheureux, mais pas pour nous. Pas pour nous. Alors bien entendu, on va en subir les conséquences déjà, on va en subir les prémices. Mais je veux dire, il n'y a pas plus normalement tranquille qu'un prémillénariste. Moi, tout ce que je vois aujourd'hui, je me dis, mais les Écritures nous préviennent, quelle grâce nous avons. On a un Dieu qui nous avertit. On n'est pas ignorant. Vous savez, Jésus a prédit des épidémies. Le mot, j'ai fait des recherches. En fait, le mot épidémie, il n'utilise pas dans les évangiles, c'est le mot peste qu'il utilise. Il y aura des pestes. Alors, ça peut vouloir dire épidémie, hein, ça ne peut pas dire stricto sensu des pestes. On verra bien. Mais toujours est-il qu'il va y en avoir de plus en plus. Il va y avoir de plus en plus de tremblements de terre. Alors, ce ne sont pas des bonnes nouvelles, mais ce sont des bonnes nouvelles si on voit selon l'œuvre accomplie. C'est-à-dire qu'un jour, tout ça va cesser et Dieu nous prévient. Donc, alléluia, je peux glorifier Dieu dans cette situation. Tout comme je crois que dans ma vie, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même si c'est parfois des choses difficiles, même si parfois il y a des corrections, des châtiments, quel est le père qui ne châtie pas son enfant, et de façon globale au niveau mondial, c'est la même chose. Dieu est à l'œuvre. Il n'est pas ignorant, et même, il ne nous a pas rendus ignorants, il a permis que ça soit concilié dans les Écritures. Donc, soyons des agents de la vérité, des agents de la parole de Dieu. Soyons éclairés et ayons de la sagesse pour ensuite être des éclaireurs pour les autres, en disant, oui, il se passe tout ça, c'est vrai, mais tu sais, on a une espérance là. C'est vers Jésus-Christ qu'on doit pointer le doigt, pas uniquement par ce qui se passe autour de nous. Et l'évangile peut être annoncé avec un masque ou sans masque. L'évangile peut être annoncé avec un Covid ou sans Covid. L'évangile, vous savez, il y a des prisonniers qui étaient en prison, martyrisés, ils continuaient d'annoncer l'évangile. Il y a des gens qui ont été témoins dans les jeux du cirque. Il y a des gens qui ont été des témoins dans les galères, lorsqu'il y a eu les persécutions contre les protestants en France. Il y avait des protestants pieux qui ramaient, l'espérance de vie aux galères, c'était maximum 3 ans. D'accord? Dans les 3 ans, vous mouriez. Et donc, dans les galères, et à côté d'eux, il y avait peut-être des repris de justice, des meurtriers, des violeurs, et ils ramaient à côté, et ils pouvaient annoncer l'évangile avant de mourir. Vous aviez des femmes qui étaient en prison. Ça a toujours existé. Est-ce que ça empêchait l'annonce de l'évangile? Non. Est-ce que ça engendrait de la souffrance? Oui. Oui. Mais Dieu est grand, et Dieu est à l'œuvre, et Dieu nous a fait des promesses. On a des rêves, nous sommes des Joseph. Nous savons que ce que les gens font en mal, Dieu le transformera en bien. Et un jour, on l'adorera pour l'éternité. On va chanter, on va louer Dieu, on sera ensemble. Il pourrait y avoir des virus, ça nous fera rien, parce qu'on sera éternel. D'accord? Donc, plus de médecins, plus rien. Waouh, Seigneur, c'est là notre espérance. C'est là notre espérance. Donc, ne nous trompons pas de combat. Soyons vigilants, discernons et soyons sages devant ce que nous voyons et nous entendons, et on va marcher par la foi. Que Dieu vous bénisse.